Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, nos rendez-vous avec la communauté. Mais on commence tout d'abord avec notre rubrique rétrospective, comme chaque samedi, c'est arrivé aujourd'hui.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Allez, aujourd'hui, dans notre rubrique rétrospective, Valentine Sabourot nous emmène dans les pas de millions de manifestants pacifistes mobilisés à la veille du déclenchement de la Deuxième Guerre du Golfe. Récit avec les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et de SBS News.
Et soudain, de Melbourne à San Francisco, le monde se met en marche. Le monde, ce sont 8 à 12 millions de personnes qui manifestent en un seul élan contre la guerre. Nous sommes le 15 février 2003, un peu moins d'un mois avant le début de l'opération Liberté en Irak, prévue pour le 20 mars sous l'égide des États-Unis. C'est l'une des plus grandes manifestations pacifistes de l'histoire. Après les attentats du 11 septembre 2001, le président américain George W. Bush annonce que son pays mènera une croisade contre l'axe du mal, formé par l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Avec l'Irak en particulier, les relations sont de plus en plus tendues. Saddam Hussein a certes accepté que son pays soit désarmé, mais il rechigne à rendre public ses programmes de fabrication d'armes chimiques, biologiques et nucléaires. Par-dessus le marché, il ne s'est pas plié à une première résolution de l'ONU, votée en novembre 2002, lui enjoignant d'obtempérer dans les 30 jours. Deux camps vont alors se faire jour. D'un côté, les États-Unis, qui rassemblent autour d'eux les partisans d'un ultimatum puis d'une intervention. De l'autre, un camp de la paix qui souhaite donner plus de temps au dictateur irakien. Ce dernier regroupe entre autres la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine. Le 5 février 2003, le discours du secrétaire d'État américain Colin Powell à l'ONU va marquer un tournant.
What you will see is an accumulation of facts and disturbing patterns of behavior. The facts and Iraqis' behavior. Iraq's behavior demonstrate that Saddam Hussein and his regime have made no effort to disarm as required by the international community.
Pendant une heure, il présente de nombreux documents censés prouver de manière irréfutable la présence d'armes de destruction massive et bactériologique en Irak. Il brandit d'ailleurs une fiole d'anthrax, une maladie infectieuse très grave, développée selon la CIA comme arme de guerre dans le pays. Tout cela justifie une intervention. Les Américains se prévalent d'ailleurs déjà du soutien du Royaume-Uni, de l'Australie ou de la Pologne. Le camp du refus se fait toutefois entendre. Extrait du célèbre discours de Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Jacques Chirac, à la tribune de l'ONU.
Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience, la lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.
Quant à la rue, elle va aussi donner son opinion. Quelques mois avant ce coup d'éclat américain, le premier forum social européen avait déjà donné le ton en se disant dès novembre 2002 contre la guerre. Le racisme et le néolibéralisme. Le 15 février 2003, c'est à l'appel de nombreux syndicats, organisations ou mouvements que des millions de personnes vont manifester à travers le monde. Le coup d'envoi est donné en Australie.
Because I don't like the idea of this particular war. That's the only reason. Normally I would not be involved with anything like this, but today I am.
I'm strongly opposed to it and think this is the only thing we can do because the government obviously doesn't want to hear what we're saying.
À Rome, les organisateurs revendiquent 3 millions de manifestants. En Angleterre, 2 millions protestent contre l'alignement de Tony Blair avec les États-Unis. Au Canada, malgré un froid polaire, 220 000 personnes battent le pavé. Les colombes et les slogans pacifistes le disputent au drapeau américain qui est parfois brûlé comme à Beyrouth ou Damas.
Beaucoup de monde aussi en Turquie, autre pays frontalier de l'Irak, allié réticent de l'Amérique. Quelques incidents à Istanbul lorsque les manifestants ont mêlé Irak et Kurdistan. Au Japon, discipline à rentrer, mais aussi le sens de l'image. La statue de la liberté devient potence et Bush, un boxeur qui boxe dans le vide.
Hélas, cette démonstration de force pacifiste mondiale restera lettre morte. Le 17 mars, George W. Bush donne 48 heures à Saddam Hussein pour quitter le pays. Le 20, c'est le début de l'opération Liberté. Cette deuxième guerre du Golfe, lancée, on le saura plus tard sur la base d'informations erronées ou fabriquées, durera jusqu'en 2011, avec un bilan de 4000 morts côté américain et un décompte beaucoup plus aléatoire côté irakien, les chiffres allant de 100 000 à plus de 1 million de victimes.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Troisième sexe, la voix de Nicolas Sirkis. Bien entendu, vous aurez reconnu le groupe Indochine. Nicolas Sirkis qui nous avait fait une belle interview il y a quelques temps. C'est disponible sur notre site internet. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Europa Voice numéro 156. Comme à l'accoutumée, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
On va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui dans la première partie de cette Europa Voice. Il y a un énorme sommet qui s'est passé à Paris, un sommet important. Il y avait du grand, du beau monde au Grand Palais à Paris. L'importance d'un sommet comme celui-là et surtout les annonces qui ont été faites, 109 milliards d'euros investis par la France. Alors j'ai plein de questions par rapport à ces 109 milliards d'euros. Mais parlez-nous un petit peu justement de l'importance d'avoir un congrès comme celui-là et de l'importance d'avoir une présence à la fois européenne et française dans le nom, dans le marché de l'intelligence artificielle.
Alors c'est intéressant parce que vous avez fait un petit lapsus, Christophe.
Ah.
Et donc c'est pas une intelligence artificielle, mais ça veut dire beaucoup aussi de ce que les citoyens ont retenu, parce que c'est 109 milliards effectivement d'investissement. Pas de la France, mais en France. Et c'est peut-être encore plus important.
Tout à fait. Mais c'est pour ça que je voulais en discuter, parce qu'en fait, dans les 109 milliards, il y a telle compagnie, tel pays qui investit. C'est l'Arabie Saoudite qui investit. C'est pas le gouvernement d'Emmanuel Macron qui investit, ce qui a fait un mini tollé pendant un petit moment en France.
Non, effectivement. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est un vrai momentum encore européen/slash mondial de la part d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, le fait aussi que l'Inde soit aux avant-premières de ce sommet sur l'intelligence artificielle dit beaucoup aussi de la relation indo-pacifique. C'est presque une manière de close the loop, hein, en anglais, entre le début du mandat d'Emmanuel Macron et la fin de son mandat, de réaffirmer ce partenariat stratégique avec l'Inde, avec la venue du premier ministre indien Narendra Modi. Mais effectivement, ces 109 milliards d'investissements de capitaux étrangers privés qui vont venir et qui vont être investis avec des fonds qui viennent de plein de pays, des Émirats arabes, vous l'avez mentionné, mais aussi du Canada et des États-Unis. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on l'a bien vu avec Vance pendant ce sommet sur l'intelligence artificielle, les États-Unis d'une certaine façon l'ont un peu boudé, ce sommet. Vance n'a même pas assisté au discours d'Ursula von der Leyen. Mais quand même, il
Vance,
se doit
le de... vice-président.
Le vice-président, pardon, pour nos auditeurs.
Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, il y a, et ça, je pense qu'il faut qu'on en parle, il y a une troisième voie dans l'intelligence artificielle et l'Europe veut être cette troisième voie. Il y a la voie de l'intelligence artificielle d'État, qui est la voie chinoise. Il y a la voie ultra-commerciale, qui est la voie américaine. Et il y a sûrement un entre-deux, un en même temps, j'allais le dire, qui peut être trouvé par l'Europe, qui doit être trouvé par l'Europe.
Alors effectivement, il y a 200 milliards d'euros, Christophe, qui sont investis par l'Union européenne, notamment dans le développement de Gigafactory Data Center. Principalement, quand on dit l'Union européenne, ça vient principalement du secteur privé. Il y a 150 milliards qui vont être financés par l'Alliance European AI Champion Initiative et 50 milliards par l'Union européenne elle-même. Mais effectivement, il y a de la part de l'Union européenne aussi ce sentiment de devoir pas seulement réguler, en fait, l'intelligence artificielle. On en a beaucoup parlé d'EMA, DSA dans les épisodes précédents d'Europa Voice, mais il y a aussi la volonté de devenir une place attractive pour l'intelligence artificielle et pour tout le business et toute la création d'emplois et d'activités qui découlent de cette intelligence artificielle.
Et aussi de dire qu'il n'est pas trop tard. Le combat est loin d'être perdu ou gagné. Il est même presque loin d'être commencé, si on veut regarder un petit peu ce schéma-là. Aujourd'hui, les acteurs se placent. La grande bataille de l'intelligence artificielle, elle aura lieu sûrement à un moment ou à un autre. L'Europe a besoin d'avoir un siège à la table des discussions, des évolutions de l'intelligence artificielle.
Alors c'est un peu bateau, c'est un peu cliché, Christophe, mais data is the new gold.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs,
on fait du data mining.
Voilà, exactement, du data mining. Les données sont le nouvel Eldorado, que ce soit pour les entreprises privées, les États, etc. Et donc, d'une certaine façon, l'Europe joue aussi son rôle de mettre des limites, d'encadrer cet accès et ce traitement des données. Et d'ailleurs, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que dans l'alliance dont j'ai parlé il y a quelques minutes, il y a beaucoup de grands groupes européens. Il y a Airbus, et c'est intéressant parce qu'Airbus, c'est la réponse européenne à Boeing. Il y a CMA CGM, qu'on connaît bien ici en Australie, qui détiennent ANL. Mais CMA CGM, c'est aussi la réponse à d'autres grands transporteurs de fret américains. Et il y a d'autres plus grandes, j'allais dire, entreprises et belles réalisations françaises et européennes comme Dassault, L'Oréal ou Orange. Donc en fait, l'Union européenne, et c'est là où c'est intéressant, c'est que pendant de nombreux mois, les entreprises privées ont vu d'un mauvais œil le traitement de l'intelligence artificielle par les instances de l'Union européenne. Et puis là, on a l'impression qu'il y a un shift en termes de narratif. Et là, c'est le communicant, c'est la casquette du communicant qui parle. Il y a un shift en termes de narratif où c'est effectivement l'Europe qui a la manœuvre. Mais derrière l'Europe qui a la manœuvre, ce sont les entreprises privées européennes. Et il y a une espèce de patriotisme économique au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire à une échelle aussi qui est cohérente, pour justement faire face aux géants chinois et aux géants américains dont vous mentionnez les noms il y a quelques instants.
Et j'allais presque mettre le géant américain en aparté là-dessus, parce que je pense que quand on est un industriel ou qu'on est une entreprise ou un grand groupe européen, on se rend compte que bon, ok, la Chine nous aidera pas parce que la Chine c'est une politique qui est à la fois très chinoise et qui est très très étatique, mais que le marché américain il a été bouleversé avec l'arrivée de Donald Trump en plein de niveaux, et cette America First va gêner certains groupes dans leur investissement, dans la liberté d'avoir des fonds, la liberté d'avoir accès à de l'argent, qui donnera un problème pour les groupes européens et ce développement. Donc, il y a un moment, il faut aussi qu'ils regardent au bas de leur porte et que le meilleur allié qu'un groupe allemand, qu'un groupe français, qu'un groupe italien, qu'un groupe espagnol peut avoir aujourd'hui, il est forcément de facto européen.
Bah, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a parlé de capitaux privés hors Europe, hein, les Émirats arabes, le Canada et les États-Unis. Mais quand on en vient à la signature d'un accord diplomatique, parce qu'il y a c'est ce qui a un petit peu terminé, qui a conclu ce sommet, cet accord diplomatique pour une intelligence artificielle, et là je cite les termes officiels, ouverte, inclusive, éthique, on reste un peu sur ces, j'allais dire, sur ces termes théoriques, mais qui font qu'on donne un cadre législatif à un accord diplomatique, et ben cet accord diplomatique a été signé par une soixantaine de pays, et au rang des absents, alors on trouve le Royaume-Uni, ça on en reparlera peut-être
dans quelques instants, partie
mais on trouve aussi les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis se doivent d'être là et en même temps, ils sont mais parce que c'est cohérent avec ce que vous mentionnez avec Trump et l'isolationnisme américain, ils sont cohérents, donc ils vont participer, mais ils ne signent pas cet accord diplomatique, ils ne rentrent pas dans le jeu de la régulation de l'intelligence artificielle comme les Européens l'entendent.
Est-ce qu'il y a une place à prendre pour l'Europe dans le combat américain ? Je m'explique. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a deux grands acteurs de l'intelligence artificielle mondiale, mais également aux États-Unis. Alors, on met à part les Chinois, bien entendu, avec leur DeepSeek et les évolutions qui ont été faites. Aujourd'hui, on va regarder simplement les États-Unis. On a d'un côté OpenAI avec ChatGPT, et d'un autre côté, on a Elon Musk, qui, lui, a en gros une mainmise sur une partie du gouvernement américain aussi. Ce combat, entre guillemets, des chefs, aujourd'hui, est-ce qu'il peut jouer en la faveur d'un groupe européen, d'un investissement européen, d'un investisseur européen? Je parle pas forcément de Mistral, qui sont les Français, de ce côté-là, mais est-ce qu'il y a une opportunité là, si on les laisse, les deux grands géants, OpenAI et X pour Elon Musk, XAI, se battre entre eux, se faire leur bataille à la fois légale, sur les tribunaux, perdre du temps dans ce développement-là?
Mais c'est intéressant, Christophe, parce que j'allais justement mentionner Mistral.
Le chat de Mistral.
Voilà, mais parce que Mistral a aussi été beaucoup mis en valeur parce que la France a organisé ce sommet, parce que c'est une pépite française, etc. Mais en fait, le fait de parler de Mistral, ça montre aussi l'enjeu justement pour l'Union européenne, qui est non pas d'avoir un acteur national, mais d'avoir un acteur européen. Donc ça, c'est le premier élément. C'est est-ce que demain, on sera capable d'avoir un acteur extra-national, européen d'intelligence artificielle. Et la deuxième, le deuxième point, effectivement, je crois que l'Europe, pour l'instant, a tout intérêt à être assez attentiste dans ce combat des chefs / combat des égos qui est en train de se passer aux États-Unis, parce qu'on n'est absolument pas à l'abri de réactions complètement surdimensionnées d'un côté ou de l'autre. D'Elon Musk, par exemple.
Surtout d'un côté. D'un côté ou de l'autre, mais donc, surtout d'un côté quand même.
Donc, c'est pas aux Européens de se mêler et de faire de l'ingérence dans ce qui se passe aux États-Unis. Mais en tout cas, il est évident que les Européens ont tout intérêt à faire émerger, justement, cet acteur européen d'intelligence artificielle, à faire émerger un cadre contraignant, à attirer aussi des capitaux. On l'a mentionné dans un des derniers épisodes d'Europe Power Voice. Il y a une grande partie de l'épargne et de l'investissement qui devrait rester en Europe et qui, pour l'instant, part de l'Europe. Donc, il y a aussi, via ce conduit qu'est l'intelligence artificielle, la volonté des Européens de faire que les entreprises européennes, les épargnes européennes, continuent à être investies en Europe pour développer ces acteurs. Et puis, encore une fois, je parlais du rôle prépondérant de l'Inde. Le prochain sommet de l'intelligence artificielle sera organisé en Inde. Et donc ça raconte aussi beaucoup justement dans ce jeu d'alliance, États-Unis d'un côté, Chine de l'autre, et puis une espèce de partenariat entre les deux autres grandes puissances, rien qu'en termes démographiques, le milliard et les 550 millions à peu près de l'Union européenne.
Mais c'est intéressant qu'on parle de l'Inde, parce que l'Inde pendant longtemps a été le cerveau de développement d'énormément de logiciels, le cerveau de tout ce qui se passait, de l'après-vente des logiciels. Ça a été vraiment un des acteurs clés. Aujourd'hui, l'Inde n'a pas envie de perdre sa place de leader ou d'un des leaders mondiaux de l'informatique, du développement et de développement logiciel. Donc ils ont un énorme défi devant eux aussi, les Indiens, parce qu'ils peuvent très vite devenir obsolètes. Leur développement technologique pourrait très vite devenir obsolète s'ils ne font pas partie des groupes. Et clairement, ils ne peuvent pas faire partie du groupe d'État chinois et ils ne peuvent pas faire partie du groupe américain. Donc aujourd'hui, c'est presque un partenariat naturel qui existe avec l'Inde, et il n'y a presque que l'Europe qui peut leur offrir ce partenariat.
Oui, c'est un peu encore une fois, je pense qu'il faut prendre cette séquence sur l'intelligence artificielle comme la continuité, comme le continuum de ce qu'Emmanuel Macron a impulsé dès 2017 avec l'axe Indo-Pacifique, tout à fait. Et ça, encore une fois, c'est peut-être passé un peu trop inaperçu en France, mais c'est véritablement clé. C'est comment est-ce qu'on trouve des nouvelles routes de la soie, alors pour plein d'autres domaines, hein, pas que la soie, mais comment on trouve ces nouvelles routes de la soie en ayant la possibilité de contourner justement la Chine. Et donc, effectivement, c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est un partenariat gagnant pour l'Union européenne d'avoir un autre acteur de dimension mondiale. Encore une fois, il faut parler démographie, il faut parler marché. Et le marché indien est cohérent en termes de démographie, en termes de développement. Mais c'est aussi un partenariat gagnant-gagnant pour l'Inde de pouvoir s'appuyer sur les ressources, les technologies, les recherches et quand même la puissance de l'Union européenne. Et puis, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, il y a un peu l'idée du plug, baby plug, hein, en réponse à Donald Trump, de branche continue de brancher bébé. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va aller encore plus loin dans justement l'intelligence artificielle. Et encore une fois, l'intelligence artificielle, souvent, c'est un mot un peu valise, mais de là découle beaucoup de choses. Et par exemple, juste pour mentionner, et on peut finir avec ça, mais pour mentionner un secteur, le secteur justement de l'énergie va être primordial pour l'Union européenne. On sait que c'est un secteur où l'Union européenne investit beaucoup. C'est un secteur d'avenir. On le voit ici hein, en Australie, notamment dans le Victoria, avec le nombre d'entreprises françaises et européennes et leur savoir-faire qui viennent ici et qui exportent leur technologie en Australie. Donc l'intelligence artificielle, elle va être mise au service, elle ne va pas être prise comme une finalité en soi, mais elle va être mise au service des secteurs clés et stratégiques dont l'énergie, par exemple, fait partie pour l'Union européenne.
Quelque chose me dit que tout ça, ça va devenir peut-être notre nouvelle Madeleine de Proust. Ça peut être intéressant sur les mois à venir à Europa Voice.
Moi, je m'amuse, je danse et je conteste parfois.
Moi, je ris, je rêve et je m'en mêle parfois.
Sur la lune, sur une île, on ira. Sur la terre où tu voudras. Sur la mer au bout d'un... S'il te plaît, crois-moi. Tout file entre nous trois. La nuit, le jour n'existent pas.
Moi avec Gaëtan Roussel en ce samedi sur Radio SBS. On fait une courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir de retrouver Thomas Feldstein, qui est le directeur de l'Alliance française de Perth. Bonjour à vous.
Bonjour Jean-Noël et bonjour à vos auditeurs ou auditrices.
Thomas, on passe au mois de mars, un save the date pour le jeudi 13 mars pour lancer la 36e édition de l'Alliance française French Film Festival.
Oui, c'est ça déjà. Donc l'année dernière, on a fêté les 35 ans. Cette année, donc 36e édition du French Film Festival. À Perth, donc à partir du 13 mars. Je signale que Perth cette année est unique. Bon, Perth est toujours unique, évidemment, mais cette année encore plus, puisque Perth est la seule ville qui va profiter d'un programme complet du festival pendant 5 semaines. Alors qu'en général, dans les autres villes d'Australie, c'est 4 semaines, plus quelques jours supplémentaires ou un programme pas tout à fait complet sur les derniers jours. Là, nous, on a 5 semaines de programme complet. C'est un petit peu un test, donc on est curieux de voir si les spectateurs sont au rendez-vous jusqu'au bout. Et en effet, le jeudi 13 mars, donc ce sera l'opening night. Comme d'habitude à Perth, on fait les choses en grand avec 3 lieux différents. L'opening gala qui sera à Luna Niederville, au cinéma Luna Niederville. Et puis deux opening receptions, l'une à Palace Rem Square dans la city, et l'autre au Luna on Essex à Fremantle. Et puis ensuite on part donc pour 5 semaines, 42 films cette année, plusieurs soirées spéciales avec des projections uniques de films. Je pense comment Jane Austen a ruiné ma vie, qui sera projeté qu'une seule soirée. Je pense au film Emmanuel, qui sera projeté lors d'une soirée Oh là là à Palace Red Square, donc le vendredi 4 avril. Et puis en avant-première, première australienne évidemment, Le Comte de Monte Cristo, donc le samedi 15 mars, dans 4 cinémas, dans les 4 cinémas partenaires. Et plein d'autres événements, évidemment. Le traditionnel Test of Friends.
Ladies Night.
Voilà, la Ladies Night, bien entendu. Avec cette année encore une comédie, je pense, qui devrait plaire au public australien. Riviera Revenge, en français, N'avoue jamais. Qui est une comédie avec Sabine Azéma, Thierry Lhermitte et André Dussolier. sur leurs 60-70 ans quand même, hein, et qui rejoue la jalousie amoureuse. C'est vraiment très drôle. Ils ont une pêche comme ces trois-là. C'est vraiment un très bon film.
Et puis peut-être Thomas, un mot sur les school screenings.
Oui, c'est la particularité donc du French Festival, hein, c'est de mettre en avant énormément d'événements pour les enfants, pour les scolaires. Donc les school screenings qui vont débuter pareil à partir du 13 avril. Donc là on a plusieurs films pour les petits, pour les moyens, pour les grands, école primaire et secondaire. Je pense évidemment au Conte de Monte Cristo, je pense à Savage pour les enfants. Il y a des films qui sont pas dans le line-up complet, mais qui sont réservés aux enfants. Et donc les écoles partenaires, enfin les écoles de Perth, ont reçu des propositions pour pouvoir emmener leurs élèves voir ces films-là. Et puis surtout, nous on propose pour chaque film un kit pédagogique, donc un kit d'exploitation du film pour les enseignants, de manière à préparer la sortie scolaire et puis profiter après le film d'un travail en français bien entendu sur le film qui aura été vu.
Et puis vous avez aussi les corporate private screenings. Est-ce que c'est une nouveauté pour WA?
Alors on a lancé ça l'année dernière. Et en effet l'idée c'est de proposer donc à des entreprises, qu'elles aient un lien avec la France ou pas d'ailleurs, hein, de profiter du French Film Festival pour soit par exemple offrir à leur staff, à leur personnel une soirée détente, hein, une soirée team building avec un verre de vin, un bon film français, soit à leurs clients par exemple aussi une soirée un peu chic, une soirée marketing pour remercier les clients par exemple avec là aussi une soirée un verre de vin, des canapés, un bon film français. Et donc voilà, proposer ces soirées là proposer aussi aux entreprises d'utiliser le French Festival comme un moyen de récompenser leurs employés, leurs partenaires en offrant des tickets de cinéma par exemple. Bref, voilà, se saisir de cette opportunité, rappeler éventuellement leur petit lien avec la France pour certaines de ces entreprises, ou au contraire jouer sur le chic à la française s'ils n'ont pas de lien particulier avec la France, comment gratifier voilà leurs clients, leurs partenaires, leur personnel de ce moment vraiment unique dans la vie culturelle de Perth.
Est-ce qu'il y a d'autres projections de films dans d'autres villes de Western Australia?
Oui, nous renouvelons notre partenariat avec le BREC, le Bunbury Regional Entertainment Centre, donc pour 4 jours de festival du 10 au 13 avril. Et donc c'est une sélection de 8 films qui seront projetés au BREC pendant ces 4 jours. Et on aura là aussi des séances pour les scolaires. On aura là aussi une opening night jeudi 10 avril au soir. Et c'est vrai que ça avait bien marché l'année dernière avec plus de 1000 spectateurs en 4 jours. Donc c'est surtout un partenariat vraiment très friendly, en tout cas très très avec beaucoup de respect, beaucoup de presque d'amitié avec l'équipe du BREC là qu'on a développé. On est vraiment très heureux de renouveler ça cette année.
Et pour les gens qui nous écoutent, c'est probablement l'heure de faire les réservations dès maintenant.
Oui, en effet. Donc pour le French Film Festival, eh bien ça y est, la billetterie est en ligne, affrenchfilmfestival.org. Ça c'est le site national, et ensuite il y a un onglet pour aller sur Perth. Pour le break, on n'y est pas encore parce que ce sera au mois d'avril, mais on va bientôt ouvrir. Et puis sont aussi distribués les fameux booklets, hein, les petits programmes papier là, qui nous sont toujours demandés, qui sont toujours attendus par notre public, qui fait son choix, qui fait ses commentaires, qui nous demande notre avis aussi, hein. Moi, j'aime bien ce moment du French Festival parce que c'est un moment où on retrouve non seulement nos étudiants, mais aussi un public qui, évidemment, est francophile et qui profite chaque année du festival et qu'on n'a pas l'habitude de voir en dehors du festival. Donc, c'est des moments vraiment sympathiques où on peut échanger, discuter cinéma, discuter culture française. Je suis toujours étonné de cette image positive qu'a la France et la culture française ici à Perth, avec plein de gens qui viennent nous rencontrer pour discuter du French Festival. C'est toujours très agréable.
Autre annonce que vous aimeriez nous dévoiler peut-être, Thomas?
Oui, deux choses, si je peux me permettre. La première, toujours sur le Funcube Festival, c'est les Q&A, donc ces soirées spéciales, Question and Answer, puisque cette année, à nouveau, on organise quatre séances. Donc l'idée, c'est d'ajouter d'avoir une valeur ajoutée, en fait, avec certains films, avec une intervention d'un spécialiste du sujet traité par le film. Je pense, par exemple, à la curatrice de la Western Australian Gallery, clairement l'Art Gallery de Perth, qui va présenter le film Nikki sur le biopic sur Nikki de Saint-Phalle. Je pense à une intervention qu'on aura sur la fin de vie avec le film Become What Comes After, donc Le Dernier Souffle en français. Je pense à une soirée spéciale qu'on organise avec l'université de Curtin et l'association. Comme une association de culturelle mauricienne sur le film Nichelle Nimètre. Voilà, donc on a aussi cette plus-value hein, que le French Festival apporte. J'aime dire que on fait pas que projeter des films, mais on organise aussi avec les school screenings, avec les Q&A, avec les soirées spéciales, des événements bien particuliers sur ces films.
Merci à vous Thomas et bon festival du film français.
Oui, merci beaucoup Jean-Noël encore, et puis j'espère voir vos auditeurs, vos auditrices dans les salles de cinéma, et puis qui n'hésitent pas à venir nous voir, on est toujours ravis d'échanger avec eux, avec elles sur le film ou sur la culture française en Western Australia. On est toujours très très contents de discuter avec notre public.
Il a plu dans la chambre, est-ce que c'était mes larmes ou juste un bout de toi qui part? Je crois que j'ai les mains qui tremblent. Je cherche un peu la flamme. Est-ce qu'il reste nous quelque part? Mais quand tu me regardes, je baisse en la pluie coule encore. Et moi j'aime quand nos cœurs se dévorent. Je sais qu'on s'aime encore.
La pluie de Louane, qui a d'ailleurs été sélectionnée pour être la représentante de la France à l'Eurovision. Sa chanson sera dévoilée dans les semaines à venir. Allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Les aborigènes d'Australie et les habitants du détroit du Torres ont une connexion spirituelle avec la Terre qui s'entremêlent avec leur identité, leur sens d'appartenance et leur façon de vivre. Elles représentent leur maison ancestrale, la fondation de leur existence et la gardienne de leurs histoires. Auntie Deirdre Martin, une femme Wabanja de la nation Yuin, incarne cette profonde connexion en tant qu'aînée respectée et ranger qui travaille dans les parcs nationaux et le service de la faune sur la terre d'Ariwul en Nouvelle-Galles du Sud. Elle dit que la terre n'est pas une entité à posséder, mais plutôt une partie inséparable d'elle qui doit être respectée et traitée avec soin.
I can't speak for all people, but for me, with the land, we don't and never will own the land. We have a role to protect the land, our country. The land is what provides us with food, water, shelter, only to name a few. Land is a terminology, but it runs through our veins. It's our first breath, and it will be our last.
Le lien entre les peuples des Premières Nations et leur terre est incroyablement fort. Le simple fait d'être près de leur terre peut évoquer un sens d'appartenance qui transcende les mots.
Spirituality is my strength, a sense of belonging, a connection, and a sense of knowing your country. For instance, when I'm traveling home from Sydney, as soon as I come around the Kaiama Bend, I look down the coast, and the feeling of belonging just overcomes me, and I think I'm home.
Desmond Campbell est un fier homme Gurundji et Alwa Nalkan du Territoire du Nord est le PDG de Welcome to Country, une organisation qui encourage le développement de la richesse et du succès parmi les communautés aborigènes et du détroit du Torres. Il ressent des émotions similaires lorsqu'il retourne chez lui, sur sa terre.
When you're on that dirt track, there's this anticipation as you're seeing key sort of hills and trees that's telling you that you're getting closer and closer and closer. And so there's this build, and I'm getting goosebumps actually thinking about it now that I'm in Sydney and thinking about being home, being on country. There's this anticipation that you know what you're going to smell, you know what you're going to taste, you know who you're going to see. It's just this familiarity that just has will never leave you.
Il ajoute que c'est un endroit où il peut être lui-même et se sentir en sécurité.
Very joyful, happiness feelings that really rises all the senses in your body. But although we didn't grow up there permanently, it's as if we were there just yesterday. Every time we go there, it's just so familiar to us. And you just feel safe. You feel like you're in a place that you can be who you are as an Aboriginal person. You can speak the language and people know what you're saying. You can hear the language.
Monsieur Campbell dit qu'il est important de retourner régulièrement à sa terre ancestrale, non seulement pour préserver sa culture et sa langue, mais aussi pour la profonde connexion spirituelle qu'elle encourage. Cette connexion lui donne les moyens d'être un bon leader pour son organisation.
Fills me up, fills my spirit up. It allows me to be able to be living in a place like Sydney and work for an organization like Welcome to Country. Through this platform at Welcome to Country, we're sharing culture and language from all these different countries all around Australia. So for me to be able to be leading that, I need to be maintaining my culture and my language and have that integrity. And I can only do that by going home from time to time.
Monsieur Campbell explique que cette connexion spirituelle avec sa terre lui vient d'histoires qu'on lui a racontées lorsqu'il était enfant, qui contenaient de l'information et des leçons à propos de sa terre.
The Gurindji side, which is on my father's side, that's desert country. The animals are different. The seasons are different. So the stories were different as well, because entwined with those stories were lessons about when you can go hunting during different seasons and what you can hunt. Entwined with those stories were lessons about if you do the wrong, for instance, if you play with fire during the wrong season, the consequences of a big bushfire happening and the consequences of destroying flora and fauna habitats that might be important for cultural harvesting.
Bradley Hardy est un fier homme Nia Mba, Yualari Ai, Kuma et Camila Roy, et un gardien moderne des pièges à poissons de Bruaruna, situé le long de la rivière Bawan. Il dit que la rivière est son sang.
It's about 700 meters north of Fish Traps. I live on the deep part of the river. I'm a river person, and off that river, I'm black soil person. The river's my blood. The river's my identification with the community that brings community together. We need all those to become one.
Monsieur Hardy continue de partager les histoires de sa terre en tant que guide pour le musée de culture aborigène de Bruaruna. Il dit que c'est sa responsabilité de garder ces histoires en vie en les faisant passer à la génération suivante.
I'm fortunate enough, I'm around a lot of the old people a lot of time, and they got to share a lot of this stuff with me. And I'm glad I took notice of a lot of that stuff. And I often explain this on tour. I learn from old people to share with the young. That's how I keep it evolving. So I explain to people when I do tours of the fish traps in the museum that the tour is never about me, but it's about honoring my old people, sharing with the young, and laying a platform for the young ones to keep sharing our history of the world. And it's our duty to do that as people.
Reconnue comme l'une des plus anciennes constructions humaines au monde, ces pièges à poissons sont faits de roches stratégiquement placées en forme de U et de C, non seulement pour piéger des poissons, mais aussi pour en laisser passer pour qu'ils puissent continuer leur cycle de vie. Monsieur Hardy dit que c'est un site sacré où plusieurs groupes se rassemblaient.
It's a sacred site. We've got to try to protect it. People ask, oh, can I go down and do that? I said, no, we try not to have just anyone go into them traps, you know, so mainly for our people, you know, like for what's happened in the past, we don't want people blowing them up or anything like that. So that's our main duty, is to not only tell people about them and keep it evolving amongst our young people, but for the world, oh, these places are special places like the traps. Try to do keep preserving our stuff and sharing our stuff.
Le Parc national où travaille Auntie Deirdre compte plusieurs sites sacrés qui ont un sens sacré pour les peuples des Premières Nations. Elle indique qu'il est important d'être bien informé avant de visiter ces sites, en sachant par exemple que certains d'entre eux sont pour les hommes et d'autres les femmes.
they are knowledgeable places that you can't visit until you get the knowledge. Like, for instance, the men's and women's rights. We all have a responsibility to our countries by sharing and passing the responsibility to our upcoming future, the youth and our young ones. I enjoy going up there because the actual site that I take them down to is to a women's site, and I could share that story. Sort of hard because you have a lot of males.
Engager la conversation avec les communautés autochtones locales à propos de ces sites et rechercher plus d'informations via le conseil foncier local est une preuve de respect et offre le privilège d'en apprendre plus sur la vraie histoire des peuples des Premières Nations.
And that's why we want people to come out and learn about our stuff. Yeah, whether it be the fish traps here or whether it be a lot of our other history too or in different places, we want people to come and to really get the truth of our history so they can't just read about it in different books or stuff, and but come and see. You know, we want people to come out and learn about this stuff, but also be mindful and respectful of our stuff too.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie, c'est toi. Puis moi, le pire, c'est toi et moi.
Mais si tu cherches encore la voie, oublie-moi. Le pire, c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom?
Et vous aurez reconnu la voix de deux artistes très intéressants, Stromae et Pomme, avec Ma meilleure ennemie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.u/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.